Hatta. Bonjour. Voilà, le revenant, hein, les vacances. 3 semaines m'a fait du bien. Et vous m'avez manqué, c'est vrai. Vous m'avez manqué. Et c'est vrai, j'ai compris que notre église est vraiment une belle église, très précieuse. Et c'est très important d'avoir les frères et sœurs, entourés des frères et sœurs, avec qui nous pouvons échanger, intercéder, prier ensemble, être dans la joie et dans les pleurs ensemble. Je pense que c'est vraiment très important. Merci encore pour cette première partie, où voilà, Sophie, Caroline, et puis Élisée, Nels, qui nous ont vraiment aidés à être édifiés. En général, j'aime pas trop la danse avec les drapeaux. J'aime pas trop. Je suis pas très édifié. Mais ce matin, vraiment, merci vraiment Caro, parce que ça m'avait touché. Je me suis dit, mais c'est vrai que l'Esprit de Dieu qui plane sur nous, on le voit pas, c'est quelque chose qui est invisible, mais j'ai imaginé un peu tes mouvements, comme si, voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur nous en ce moment, dans cette église, et nous bénit, et ça m'a fait vraiment, en imaginant ça, je me suis dit, mais c'est une vraie bénédiction de voir ça, c'est vrai, quelque chose par les drapeaux, danse de drapeaux, etc. Merci vraiment. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier pour la première partie. En fait, c'est la suite de la première partie. Ce matin, je vais parler de Dieu, bien sûr, mais la confiance en Dieu, la confiance en Dieu, comme ce matin, comme la première partie, à travers l'histoire de David et Goliath. Voilà. Que nous connaissons bien. Je pense que ma dernière prédication avant les vacances était sur Dieu qui choisit comme David comme roi, et c'est Dieu à travers Samuel ou un David qui est selon le cœur de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à être recentré sur l'histoire de David et Goliath, qui est l'un des récits les plus célèbres de la Bible, et ça illustre un peu la triomphe du faible sur le fort grâce à la foi, mais aussi grâce au courage de ce petit David. Et David et Goliath, c'est une histoire que tout le monde connaît, même les gens du monde. On utilise même l'expression David et Goliath pour signifier un combat inégal. Enfin bref, j'aimerais vous inviter à regarder dans 1 Samuel chapitre 17 pour peut-être revoir un peu cette histoire et aussi amener à une réflexion par rapport à Dieu. En résumé, c'est l'histoire d'un jeune berger qui, armé de sa foi en Dieu, et armé aussi d'une petite fronde, et avec quelques pierres polies, lisses, qui va combattre un géant redoutable. Ce récit nous enseigne des leçons précieuses sur la foi, sur le courage, sur la confiance en Dieu face à des défis parfois insurmontables. Enfin, ça semble être insurmontable, etc. Alors, le contexte de l'histoire, c'est que le récit commence dans 1 Samuel 17, commence par une histoire de guerre. C'est une période de guerre entre les Israélites et les Philistins, et Goliath faisait partie des Philistins. Il était un grand guerrier, un géant. Apparemment, il mesurait plus de 3 mètres. Et celui-ci défiait les Israélites en leur proposant un duel singulier. Tous les soldats israélites, y compris le roi Saül, qui était quand même plus grand que les autres, étaient terrifiés par la taille de Goliath, mais aussi la force de Goliath. Mais ce Goliath continuait à défier le peuple, défier à provoquer Dieu et son peuple. Et pendant 40 jours, imaginez un petit peu Goliath en train de crier tous les jours, pendant 40 jours, en disant que défiez-moi, 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 hein, les poltrons, les poltrons. Et puis il se moquait de Dieu, il se moquait du peuple de Dieu. Il continuait à faire cela pendant 40 jours. C'est une vraie calvaire et une vraie provocation. Dans 1 Samuel 11, il est mentionné que Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je pense que Goliath avait bien utilisé une tactique psychologique pour intimider les Israélites. Ces cris, ces défis répétés avaient vraiment un effet terrifiant. Et puis, David entre en scène. Au fait, avant qu'il soit sur le lieu de la guerre, c'est son père qui l'envoie auprès de ses frères pour leur apporter de la nourriture. Et en arrivant sur la vallée, il entend le défi de Goliath. Et David, en entendant les phrases, les moqueries, il s'indigne. Et surtout, il ne comprend pas pourquoi personne ne réagit. Au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?» En fait, il est en train de dire, « Mais il faudrait tuer ce Philistin. » Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Alors, il continue en tout cas à consulter ce qui se passe, et il est déçu par le comportement des soldats qui ne font rien. Et il voit vraiment qu'ils sont terrifiés, il voit que ces soldats doutent de Dieu aussi, et au lieu de répondre avec courage, oui, nous allons bientôt trouver quelqu'un pour aller battre ce Goliath, en fait, les gens disent, les soldats répondent, tu sais que si on le tue, il y aura une grande richesse, et il pourra se marier avec la fille du roi. Et ce sera ça comme récompense. À cette réponse, bien sûr, David est très déçu. Et à ce moment-là, Eliab, l'aîné de la famille, son frère aîné, que justement Samuel le trouvait apte à devenir roi, cet Eliab, qui avait entendu parler de ces hommes, il était vraiment enflammé de colère contre David. Et il dit, « Mais pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ?» Il est en train de dire, « Mais qu'est-ce que tu fous là? Hein? Au lieu de travailler dans le désert, au lieu de t'occuper des brebis, qu'est-ce que tu fous là ?» Et en plus, il dit encore une phrase beaucoup plus méchante, « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Alors que Dieu le trouve l'homme selon le cœur de Dieu, son frère, son propre frère, on voit bien que son propre frère ne le connaissait pas assez. Et même, je dirais, on comprend pourquoi Dieu ne l'avait pas choisi comme le prochain roi. Et il dit, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Voilà, c'est pour visiter, c'est pour, par ta curiosité, tu veux venir voir un peu ce qui se passe ici. Alors que il n'est pas venu de son propre gré. Il est venu parce que son père lui avait ordonné. Et Eliab, au lieu de remercier David, il est en train de le réprimander. Il le critique. En disant que oui, est-ce que tu crois que la guerre est si facile? Voilà, etc. Et je me suis demandé, mais pourquoi il est aussi en colère? Je me dis, est-ce que c'est aussi par rapport à Goliath? Il a subi quand même pendant 40 jours ses cris, ses moqueries. Donc sûrement, oui, il a été terrifié par la présence de Goliath, par peut-être la menace de la mort, de mort. Il a été peut-être frustré aussi. Et là, il est en train de, pour moi, de se défouler sur David avec plein de colère. Et puis, je pense que vous savez très bien que déjà au moment du choix de l'onction de David, on voit bien que la famille ne le considérait pas beaucoup. Et là, Eliab, malgré l'onction pour que David devienne roi, ben en fait, il se comporte toujours pareillement et il ne le reconnaît pas encore comme roi. Nul n'est prophète dans son pays. Et d'ailleurs, Jésus aussi, lui-même, lorsqu'il réalisait plein de miracles, il était accueilli, acclamé, alors que dans son propre pays natal, il était repoussé. Il n'était pas reconnu. Il n'était pas reconnu. Alors, donc c'était le premier obstacle. Voilà, par son propre famille, il est rejeté. La réponse de David à son frère est très intéressante. Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vous critique comme ça, sans raison, avec beaucoup de méchanceté, mais aussi d'injustice? La réponse de David est vraiment intéressante parce que David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Ensuite, il ne lui répond pas. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Donc en fait, il est en train de l'ignorer. Il ne veut pas lui répondre. Il ne veut pas apporter, il ne veut pas se justifier pourquoi il est là. Hein? Il ne veut pas répondre voilà, par des phrases peut-être tac au tac. Parfois, vous savez, il y a des gens qui veulent toujours avoir le dernier mot pour dire que c'est moi qui a gagné. Hein? David aurait pu répondre en disant « Mais non !» Et puis il aurait pu expliquer. Peut-être même David aussi aurait pu critiquer en disant que c'est ta faute aussi, pourquoi tu ne fous rien hein, alors que le Goliath est là. Hein? En disant que « Manque de foi, infidèle, etc. » Enfin, il aurait pu critiquer. Non, il ne dit rien. Il se détend tout simplement pour parler avec les autres et aussi poser des questions. Le peuple lui répond comme la première fois. Donc, voilà ce qui se passe. Le roi Saül, entre-temps, entend que David, un certain David, se porte candidat. Ah ! Alors, il l'appelle. Et lorsque donc David se présente devant le roi Saül pour se proposer de combattre contre Goliath, Saül, deuxième obstacle, exprime son scepticisme en disant « Tu ne peux pas marcher pour aller combattre ce Philistin car tu es un jeune garçon et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Voilà, c'est incomparable, c'est un homme de guerre. Toi, tu es un berger, un petit garçon. » Pour le premier obstacle, il a juste ignoré, mais là, pour le deuxième obstacle, il fallait quand même qu'il convainc le roi pour pouvoir aller se combattre. Il lui explique donc qu'il a déjà tué des lions, des ours, pour protéger de ses moutons. Au verset 34, chapitre 17, 34, David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. » C'est quand même... Il faut le faire, hein. « S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais. » Bon, enfin, j'ai du mal à imaginer hein, un petit jeune faire ça. Peut-être Isaac pourrait le faire, hein, n'est-ce pas? Moi je vois Isaac qui est, tu relèves combien de kilos? Tu arrives à relever combien de kilos? Beaucoup. Des centaines de kilos en tout cas. 150 ? 200. Voilà, il arrive à soulever 200 kilos. Donc, pourquoi pas Isaac ? Mais, voilà, un simple brebis, enfin brebis, berger David, mais voilà, Dieu a fait grâce, je pense, aussi. Et donc, voilà, il donne toutes ces explications pour dire que je peux le faire. J'ai déjà combattu contre un ours, contre un lion, etc. Pendant les vacances, j'étais près de Perpignan, enfin, plus exactement à Argelès-sur-Mer. Et j'ai pu aussi visiter avec ma famille, faire une journée safari dans la réserve africaine à Sigean, près de Perpignan. Je ne sais pas si vous avez déjà été là-bas, c'est super sympa. Si vous visitez Perpignan, je vous invite en tout cas à réserver une journée entière pour faire le tour avec votre voiture, mais aussi vous avez aussi 3 heures de marche pour voir aussi des milliers d'animaux. C'est vraiment très très intéressant. Et j'ai vu pendant la conduite des ours, n'est-ce pas ? Et juste devant nous, il y avait plein de meutes deux ours qui étaient là, je me suis dit, waouh, c'est quand même impressionnant. Et on ne pouvait pas avancer, parce qu'ils étaient là devant nous. Et je me dis, si j'étais à l'extérieur de la voiture, j'ai du mal à imaginer ce qui serait passé. Et puis voilà, une bête sauvage, c'est quand même très dangereux. Il y a peut-être quelques années, je roulais aussi au centre de la France, et j'ai une fois rencontré sur un départemental un sanglier qui a percuté ma voiture. Waouh, c'est moi je pensais pas que le sanglier était aussi gros et que qu'il pouvait vraiment faire bouger la voiture assez fortement. Et j'étais vraiment impressionné. Mais ici David à main nue, enfin je pense qu'il avait un bâton et aussi une fronde aussi. Pour se battre, pour se défendre. Au verset 37, il dit, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Après avoir apporté ses raisons, le roi Saül dit, « Ah, peut-être que... » Il n'est pas convaincu, mais peut-être qu'il y a de l'espoir. Et donc, il accepte que David aille auprès de Goliath. Peut-être un point que j'aimerais quand même souligner. Au verset 32, il est dit, David dit à Saül, au moment où il décide, il lui dit qu'il veut bien se battre contre Goliath. Il dit, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Quand j'ai lu cette phrase, je me dis, mais j'ai imaginé David, un jeune homme, qui n'a pas encore la vingtaine, et il arrive sur un champ de guerre, et le pays en difficulté. Mais en fait, ce sont les soldats qui devraient envoyer le petit jeune arriver, l'encourager, remonter le moral en disant, mais t'inquiète pas, même si Goliath crie, tout ira bien. Mais en fait, c'est David qui encourage au roi Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Waouh ! Il n'y a pas d'âge, en fait, pour encourager les gens, et aussi pour avoir ce courage, pour voir un peu avec les yeux de Dieu. Oui, c'est le petit berger qui encourage les adultes terrifiés. Terrifiés. On voit vraiment, déjà, qui est vraiment ce David. Et puis, après avoir raconté tous ces histoires contre les bêtes sauvages, je me suis dit, en fait, c'est parce qu'il a aussi vécu plein de miracles avec le Seigneur qu'il se dit, il peut encore revivre le même miracle encore aujourd'hui contre Goliath. Je me dis que les victoires passées nous donnent confiance pour les victoires à venir, n'est-ce pas? C'est parce que nous avons déjà expérimenté que cela nous aide encore à combattre, à surmonter les difficultés. Et en tout cas, Saül est impressionné, il décide de l'envoyer. Et puis, après avoir décidé de l'envoyer vers Goliath, il tente quand même de faire porter son armure à David. Peut-être qu'il avait un certain remords, parce que c'est lui qui aurait dû y aller. Et cette armure était trop lourde, encombrante pour lui. David donc décide finalement de ne pas la porter, préférant ses propres vêtements et sa fronde. Au verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies et les mit dans sa gypsière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Voilà, David, un petit berger, un jeune berger se prépare à affronter le géant Goliath avec les outils simples, en fait ses outils à lui, un bâton qu'il a l'habitude d'avoir, de chasser contre les bêtes sauvages, cinq pierres polies, donc David aussi, choisit soigneusement ses munitions. Il aurait pu en fait choisir une seule pierre, mais il prend quand même cinq. On voit bien que c'est un homme préparé, un homme prudent quand même. Et puis, une fronde, bien sûr, une arme commune pour les bergers de l'époque. On voit la foi, la confiance et le courage pour honorer son Dieu, notre Dieu. Ainsi, David s'avance vers le Philistin. Goliath voit un petit garçon, un petit jeune, arriver de loin. En plus, il n'est même pas habillé correctement en tant que comme soldat. On a l'impression qu'il voit que c'est un berger. Il est habillé comme un berger qui arrive. Alors Goliath avait un homme devant lui qui portait son bouclier. Et voilà, il était quand même derrière. Et puis il voit un petit garçon arriver. Verset 42, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, en ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Oui, Goliath est déboussolé. Il s'attendait voir un guerrier, et là, il voit apparaître un jeune. Et donc, un jeune qui arrive surtout avec un bâton, comme s'il le considérait comme un chien. Et donc, il est outragé, et il promet de le tuer, de donner sa chair aux oiseaux, et aussi aux bêtes sauvages. Verset 45. David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. » Amen. C'est une prophétie. C'est une prophétie qui a été réalisée tout de suite après. Dieu vraiment répond avec assurance, déclarant qu'il vient au nom de l'Éternel et que la victoire démontrera la puissance de Dieu. Parfois, nous sommes déboussolés aussi contre des Goliaths qui apparaissent devant nous. Et qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons cette confiance, assurance de David? Ou tout simplement, nous fuyons ou nous nous attendons que quelque chose se passe sans rien faire, comme ces soldats? Bien sûr, on a le droit de s'inquiéter, on a le droit, mais est-ce que on va toujours continuer à s'inquiéter ou on va faire confiance et avoir la foi que Dieu peut tout faire? Rien n'est impossible en Dieu. Est-ce que nous avons cette foi-là? Comme j'avais dit, j'avais partagé dans le mail, pendant mes vacances, j'étais aussi inquiet, inquiet par tout ce qui se passe à l'église, par le vol, le cambriolage, juste après mon départ, le décès de Martine, ça m'a fait beaucoup travailler aussi. Vers la fin des vacances, ma fille partait pendant 2 semaines pour faire un stage d'archéologie. Elle n'était jamais partie comme ça dans un endroit inconnu. On l'avait déjà envoyé faire des camps, mais c'était des camps chrétiens. Et puis le lieu où elle allait, je connaissais les personnels, les responsables. C'est pour ça que je les envoyais. Mais là, elle allait quelque part, inconnue, se mélangeant avec d'autres adultes, sûrement non chrétiens. J'étais vraiment inquiet en tant que père ayant des filles, n'est-ce pas? Les pères qui ont des filles comprendront. Hein? Je m'inquiétais. Je me suis dit, mais pourquoi je m'inquiète? Pourquoi je m'inquiète? Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. On sait la réponse. On connaît la réponse. Mais on a du mal à l'appliquer dans notre vie quotidienne. Au quotidien. David, lui, il n'a même pas hésité. Lorsqu'il a entendu le cri de Goliath, il s'est outragé. Il était vraiment en colère contre cet incirconcis. Et il avait la foi en Dieu, que Dieu allait justement tout faire pour répondre à sa prière. Verset 48, « Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. » Voilà, déjà, le Goliath était devant, et là, il s'avance. Et puis, après avoir dit cette phrase célèbre que la victoire appartient à l'Éternel, « Il vous livre entre nos mains », et là, la guerre ou la bataille commence. Un duel commence entre Goliath et David. Le Philistin marche pour avancer vers David. Et David, lui, il court. Il court en prenant sa fronde. Hein? Il mit la main dans sa gypsière. Il prit une pierre et la lance avec sa fronde. Et il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. C'est pas, il a touché la fronde. Cette pierre s'est enfoncée sur son front et qui tomba le visage contre terre. Dieu a permis que David utilise sa fronde pour lancer une pierre qui frappe Goliath au front et le tuant sur le coup. Verset 50, « Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près de Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua, lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. » Voilà, juste après la prophétie de David, la réalisation se fait tout de suite après. David, en tout cas, coupe la tête de Goliath avec l'épée de celui-ci et Les Philistins, voyant que leur héros est mort, prennent la fuite et les Israélites les poursuivent. Voilà donc l'histoire de David, la victoire de David. David qui affronte Goliath avec une fronde et une pierre. Et la victoire de David est une preuve que Dieu peut utiliser ce qui semble faible et insignifiant pour accomplir de grandes choses. Alors, ici, nous pouvons peut-être réfléchir sur la confiance en Dieu. David n'était pas un guerrier expérimenté, mais il avait juste une foi inébranlable en Dieu. Il savait que ce n'était pas par sa propre force qu'il pouvait vaincre ce grand géant, mais par la puissance de Dieu. Ainsi, oui, si nous avons la confiance en Dieu, si nous avons la foi que par la puissance de Dieu, rien n'est insurmontable, nous pouvons réaliser des miracles. Cette confiance est vraiment essentielle pour nous aujourd'hui. Peu importe la taille de nos problèmes, peu importe les épreuves que nous traversons sont difficiles ou pas, nous devons croire que Dieu est plus grand et capable de nous délivrer. Amen. David n'a pas non plus été dissuadé par la taille ou l'expérience de Goliath. Il a vu au-delà des apparences physiques et il a fait confiance à la puissance spirituelle. Parfois, nos défis peuvent sembler insurmontables, mais nous devons avoir vraiment le courage de les affronter, sachant que Dieu est avec moi, avec vous, avec nous. Et David n'a pas non plus utilisé une armure ou des armes sophistiquées. Il a utilisé une fronde, des pierres, des outils avec lesquels il était familier. Dieu nous a donné aussi des dons, des talents uniques. Voilà, parfois ça peut être différent, mais plutôt que d'envier ce que les autres ont, utilisons ce que Dieu nous a donné pour accomplir ses plans. Amen. Oui, l'histoire de David et Goliath nous rappelle que la foi, le courage, la confiance en Dieu, en tout cas, sont essentiels pour surmonter les défis de la vie, peu importe la taille, peu importe la grosseur des problèmes, mais avec Dieu à nos côtés, nous pouvons vraiment être assurés de la victoire. Que nous puissions vraiment tous avoir la foi de David et que nous puissions aussi voir au-delà des apparences pour faire confiance à Dieu durant nos batailles quotidiennes. C'est vrai que dans nos vies, dans la vie, il y a plusieurs batailles à surmonter. Et une fois que vous avez vaincu, une fois que vous avez expérimenté une victoire, il peut y avoir encore d'autres Goliath qui peuvent surgir à tout moment. Mais à ce moment-là, vraiment rappelons-nous que Dieu est toujours avec nous, celui qui peut vraiment réaliser des miracles. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant, non pas un Dieu mort. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et merci Seigneur, parce que malgré les problèmes, malgré les épreuves, malgré les Goliaths qui peuvent surgir devant nous, avec la foi en toi, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à être effrayés comme ces soldats israélites. Seigneur, vraiment, aide-nous à avoir ta puissance, ta présence avec nous, comme David a pu voir. Aide-nous déjà aussi à nous rappeler de ce que tu as déjà accompli dans nos passés pour aussi réaliser d'autres miracles dans l'avenir. Merci encore de verser sur nous ton Esprit Saint. Merci Seigneur de nous donner aussi la force nécessaire pour surmonter, pour avoir plus de confiance en toi, Seigneur. Et merci aussi pour tous ces dons que tu as donnés. C'est vrai que tu avais donné un certain don à David pour pouvoir chasser les bêtes sauvages. Seigneur, aide-nous vraiment aussi à utiliser nos dons, à voilà ce que nous avons déjà actuellement, pour pouvoir aussi avancer. Seigneur, lorsque nous voulons aussi te servir, parfois, il peut y avoir des gens qui mettent sur le chemin des bâtons pour nous empêcher d'aller de l'avant, pour réaliser des miracles. Comme voilà ce frère aîné qui a découragé David, comme le roi Saül qui, au départ, ne croyait pas du tout la capacité de David. De même, Seigneur, parfois, nous pouvons être assaillis des gens ou des gens proches qui peuvent nous décourager. Seigneur, vraiment, comme David a réagi, que nous puissions aussi regarder toi seul pour avancer. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.